3,5%. Ce pourcentage représente la population noire du Canada. Il s'agit d'une population jeune, diversifiée, en croissance, avec une scolarité en progression depuis 2001. Qu'est-ce qui explique alors les écarts manifestes entre les Noirs et le reste de la population dans le domaine de l'emploi et dans le milieu scolaire? Une récente étude de Statistique Canada a en effet démontré d'accablantes disparités. Voici quelques exemples. Le taux d'emploi des personnes noires de 25 à 59 ans est plus faible que dans le reste de la population, 78,1% contre 82,6% chez les hommes en 2016. Le taux de chômage parmi les titulaires noirs de diplômes d'études postsecondaires était de 9,2% en 2016 contre 5,3% pour le reste de la population. Bien que les salaires annuels médians aient augmenté dans la population en général de 2000 à 2015, ils sont relativement stables chez les hommes noirs, soit autour de 40 000 $. Et environ un adulte noir sur cinq vit en situation de faible revenu. Que démontrent ces chiffres? Comment est-ce que les réalités qu'elles illustrent se vivent au quotidien? Comment est-ce que cet état des choses affecte notre société et quel est son impact sur le milieu de l'enseignement? Pour en discuter, accueillons Éric Quenet, enseignant et chef de département de français, arts et musique du Conseil scolaire du HALT. Bonjour Éric.
Bonjour Zahira, c'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Éric. Comment réagissez-vous face à ces chiffres?
Ce sont des chiffres qui sont plutôt alarmants et qui dépictent une certaine réalité qui, malheureusement, traduit le mal-être des personnes qui, comme moi, se retrouvent dans cette catégorie-là. Vous savez, le Canada s'illustre comme étant l'un des pays les plus prestigieux au monde, prestigieux en termes, bien sûr, du respect des droits de l'homme, du respect, bien sûr, de l'équité, de la promotion de la diversité, du multiculturalisme. Ça, c'est bien entendu sur le plan politique, sur le plan factuel. Il reste quand même qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Je ne voudrais pas tout simplement cracher dans la soupe de ce qui a déjà été fait, mais quand on rentre dans le quotidien, bien sûr, des minorités visibles dans notre pays, un si beau pays comme le Canada, avec sa son multiculturalisme, comme je l'ai dit, la réalité est tout autre. Et on espère tout simplement que, avec l'éveil des consciences et bien entendu la volonté politique des uns et des autres, on sera un jour à même de dire que toutes les populations se valent dans notre pays.
Dans le sillage des vagues de protestations survenues à Toronto suivant le décès tragique de George Floyd, tu as eu un discours émouvant lors d'une réunion du personnel le 4 juin dernier. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce faire?
C'est une très belle question, Zahira. Il faut peut-être déjà situer un tout petit peu le contexte avant de parler de ma motivation. Comme vous l'avez dit, bien sûr, avec les événements tragiques que le monde vit depuis les États-Unis, en passant par la vague des protestations que vous observez ça et là, la plupart des conseils scolaires et bien sûr le monde de l'éducation a tout simplement marqué son indignation parce que, vous savez, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Et du coup, mon conseil scolaire en particulier a pris les taureaux par les cornes. Ils ont effectivement mis la question du racisme sur la table. Il y a des établissements scolaires qui ont pris sur eux, pendant les rencontres du personnel, d'en parler. Parce que, comme vous le savez, au sein de mon conseil scolaire, comme dans d'autres conseils scolaires, il y a des populations qui sont noires et qui sont directement affectées par ce qui est en train de se passer en ce moment donné aux États-Unis. Donc, et vous savez, on parle beaucoup de racisme systémique dans la société canadienne, au-delà de ce qui se passe aux États-Unis. Mais vous savez, on est toujours aussi dans un état de déni. Il y en a qui, malgré tout, essayent toujours de nous conforter dans cette position selon laquelle le Canada fait énormément et qu'il n'y aurait pas de racisme systémique. Mais on est très loin de cette réalité, là, Zahira. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est, alors, lors des échanges au sein de mon conseil scolaire et dans mon établissement, Nos directrices et les responsables des autres départements avons estimé qu'il était important pour la population que nous servons, nos élèves, qui en grande partie sont noirs aussi, mais aussi pour notre personnel et bien sûr pour l'humanité, qu'il était important de marquer un temps d'arrêt pour voir c'est quoi l'enseignement ultime qu'on pourrait tirer d'une situation comme celle-là. Parce que n'oublions pas notre mission première en tant qu'éducateurs, c'est nous qui formons la société d'aujourd'hui et celle de demain, c'est nous qui la façonnons. Donc, c'est dans cette optique, effectivement, qu'en préparant la rencontre du personnel, il m'a été demandé de partager un tout petit peu mon expérience, si ça ne me gênait pas, mais surtout de faire quelques petites remarques qui amèneraient, bien entendu, mes alter ego, mes collègues enseignants, mes autres amis du conseil scolaire, à comprendre c'est quoi la réalité d'être un noir au Canada au 21e siècle, et c'est particulièrement aussi dans le domaine de l'éducation. Donc, c'était ça, un peu, quelque sorte, pour répondre à votre question sur la motivation. C'est ça qui m'a motivé à partager ce message que vous avez dit, d'ailleurs, très émouvant. Il y a eu beaucoup de réactions très, très positives à la fin de ma communication. J'ai d'ailleurs été encouragé à partager pour une plus grande audience. C'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, tout simplement parce que le message que j'ai essayé de partager transcende tout simplement cette réalité qu'on vit aujourd'hui.
Lors de votre discours, vous avez indiqué que cet état des choses, je cite, « vient me traquer dans mes retranchements les plus sécurisés ». Est-ce que vous avez personnellement été victime de racisme au Canada ?
Zahira, la réalité est que pour toute personne de minorité visible, si elle arrivait à vous convaincre que d'une façon ou d'une autre, elle n'a pas été victime du racisme, alors je dirais que c'est un leurre. Chaque minorité visible dans ce pays a une expérience particulière avec le racisme. Mais oui, je ne fais pas exclusion. Je fais partie de ceux-là. Et personnellement, je pense tout simplement que c'est ce qui forge aussi notre mental. Mais sauf qu'à un moment donné, Zahira, voyez-vous, on ne peut plus continuer à intérioriser un certain nombre de réalités. On ne peut plus continuer à être traqué, comme je l'ai dit, parce que, vous savez, moi, j'ai toujours pensé que notre demeure où nous vivons, c'est pratiquement notre refuge. Et alors, si au bout d'une journée de travail, lorsqu'on rentre à la maison, au lieu de passer du temps en famille, à tout simplement profiter de l'instant du bonheur familial et qu'on ressasse tout simplement sa journée et qu'on se voit hanté par un certain nombre de petits détails qui ont meublé notre journée, alors je pense que ce n'est pas OK. Et comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait dans une des communications précédentes que j'ai fait avec mes collègues enseignants, il y a beaucoup de personnes des minorités visibles qui sont silencieuses pour la plupart, pas parce qu'elles veulent, non, tout simplement parce qu'elles n'ont plus la force d'extérioriser ce qu'elles vivent au quotidien. Elles n'ont plus la force d'extérioriser ce quoi leur vécu. Et je pense que l'opportunité qui s'est présentée à moi, j'ai su, je dirais tout simplement que j'ai eu la grâce d'avoir un bon choix de mots pour véhiculer un message, mais qui en fait traduit la réalité de plusieurs personnes, pas seulement de moi.
Comment est-ce que les élèves réagissent face à ces mobilisations en ce moment?
Vous allez être tellement surprise de constater que la plupart des mobilisations observées ça et là sont le fait, bien sûr, de ces élèves. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui initient ces revendications que vous voyez. Je prends l'exemple, par exemple, de Milton, la ville dans laquelle je travaille. C'est une jeune qui a initié la marche pour magnifier, bien sûr, l'importance de la vie des minorités et des Noirs en particulier. Donc, pour vous dire tout simplement que les élèves, ils sont au fait de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, on est au 21e siècle, elle arrive instantanément au même moment que vous et moi. Et ils ont des grilles de lecture qui sont complètement différentes de celles que vous, en tant qu'adulte, en tant que journaliste, pourriez avoir, de celles que moi, en tant qu'aîné, en tant qu'enseignant, pourriez avoir. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'ils ont l'information, ils l'opposent immédiatement à leur réalité en tant que jeunes. Parce qu'en fait, ces jeunes, ils se projettent aussi dans l'avenir. Ils ne sont pas du tout contents. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez les manifestations qui sont organisées ça et là. Et ça traduit aussi leur mal-être, parce que ce n'est pas seulement au niveau du racisme, mais c'est au niveau des différentes discriminations qu'ils rencontrent dans la société, dans leur communauté scolaire et dans leur communauté culturelle. Donc, c'est très important. Et moi, je souligne, je veux vraiment saluer la bravoure de ces jeunes qui se lèvent et essayent, tant bien que mal, de faire ressortir leurs idées. Aujourd'hui, on a beaucoup plus intérêt à écouter la voix des jeunes. On a beaucoup plus intérêt à leur créer un boulevard où ils puissent s'exprimer. Parce que la vérité, c'est quoi, Zahira? C'est que vous et moi, nous sommes en train de façonner un avenir pour ces jeunes, pour ces enfants. Et s'ils n'ont pas droit à la parole, j'ai bien peur qu'effectivement, on puisse répliquer les mêmes difficultés de génération en génération. Donc, je suis content pour l'engagement qu'ils démontrent depuis qu'on a connu ces événements aux États-Unis et qu'ils en profitent, bien sûr, pour mettre sur la table un certain nombre de points. D'ailleurs, il y a un de mes collègues au conseil scolaire de Halton dans mon établissement dont la fille a initié une pétition afin que les administrateurs au niveau provincial, fédéral et même municipal, les administrateurs municipaux, puissent tenir en compte du racisme systémique dans la société canadienne. Donc, je pense que ça, c'est des éléments qui viennent encourager les enseignants que nous sommes et les personnes de couleur que nous sommes, à savoir que notre combat n'est pas simplement un combat qui est circonscrit pour les Noirs, avec les Noirs et par les Noirs, mais en fait, il y a le message qui est en train d'être porté. Et comme je l'ai dit, après ma communication de l'autre jour, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages d'encouragement. C'est tout simplement la preuve que le message est passé et qu'il y a beaucoup plus maintenant d'engagement de part et d'autre à faire un bloc à ce racisme systémique qui mine la société, qui gangrène la société canadienne.
D'ailleurs, dans votre discours, vous dites également que, je cite, « la génération actuelle d'éducateurs a du mal à trouver des réponses appropriées à toutes les questions survenant après les événements récents ». Pourriez-vous partager ces questions avec nous ?
D'abord parce que au départ, vous savez, j'ai parlé de la problématique du déni. Ils sont très nombreux, bien entendu, n'ayant pas les connaissances suffisantes, n'ayant pas les ressources suffisantes, qui s'obstinaient à tout simplement dire non, ce n'est pas un fait réel, ça n'existe pas le racisme anti-noir dans notre société, dans notre communauté, dans notre établissement scolaire. Ça, c'est d'un point. D'autre part, il reste aussi que avec des événements comme ceux-là, on se remet en question, on se dit, par quel angle est-ce que je pourrais aborder la question? Il y a beaucoup de professeurs, d'enseignants, d'éducateurs qui ont spontanément émis le vœu d'engager des discussions avec leurs élèves pour leur montrer à quel point ils se souciaient de leur bien-être, pour leur montrer à quel point ils valorisaient l'être humain, tout simplement. Mais seulement, il leur manque des rudiments d'accompagnement, il leur manque des ressources pour les accompagner dans cet exercice. Parce qu'en réalité, ma chère Zahira, il y a plusieurs angles d'approche pour parler de la question du racisme dans la société canadienne. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir quelle approche chacun d'entre nous pourrait prendre de telle façon que ça ne puisse pas rajouter à la plaie, de telle façon que ça ne puisse pas avoir un impact négatif. Le choix des mots ici est très important, par exemple. Parce qu'en fait, le mot, on peut utiliser une expression, mais de façon très, très anodine, de façon très, très, je dirais, simpliste, mais qui a un impact qui va traduire un autre message qui est contraire à ce qu'on voudrait en fait dire. Donc, je pense tout simplement que les ressources jusqu'ici n'ont pas été assez déployées pour que tous les enseignants, qu'ils soient de minorités visibles ou pas, qu'ils soient blancs, qu'ils soient indiens ou pas, les ressources, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources pour accompagner d'abord les enseignants à avoir une meilleure compréhension de ce que c'est que le racisme et la discrimination anti-noir dans le contexte canadien. Je pense que ça doit pouvoir être intégré dans le curriculum d'ailleurs. Si on ne le fait pas encore, il faudrait que ce soit le cas. Donc, il faudrait bien sûr que la génération d'éducateurs actuels, qu'ils puissent s'imprégner bien sûr des connaissances qui entourent le racisme anti-noir dans la société canadienne et comment l'appliquer. Et j'ai pris un autre exemple très simple. Vous savez, ça ne fait pas très longtemps que dans le curriculum de l'Ontario, on a commencé à enseigner aux enfants les réalités des pensionnats indiens, des écoles résidentielles. Mais voyez-vous, ce n'était pas le cas avant, ma chère Zahira. La génération d'enseignants qui sont sur le terrain aujourd'hui, eux, dans leur époque, quand ils étaient à l'école secondaire, ils n'avaient pas eu cette information. Il y en a qui apprennent, qui découvrent la réalité des écoles résidentielles en l'enseignant aux élèves de nos jours. Et vous savez, on ne peut pas avoir tous les outils. C'est pour ça qu'il faut à tout le temps consulter des personnes de ressources. Donc oui, absolument, Il y a ce manque de ressources, mais il y a bien sûr le fait qu'il faut approcher des personnes ressources pour nous accompagner dans cet exercice. Et je suis content qu'au niveau de mon conseil scolaire, depuis quelques 5 mois, la direction de mon conseil scolaire a pris sur elle d'engager, de recruter une responsable des droits de l'homme et de l'équité. Donc, il y a toute une personne qui a ce portfolio qui pourrait accompagner naturellement tout le personnel administratif, tout le personnel enseignant à avoir mieux de connaissances, avoir plus de connaissances autant pour moi et être mieux outillé à parler du racisme anti-noir dans nos écoles et bien sûr dans la société canadienne.
Comment lutter de façon durable en tant que communauté contre le racisme? Comment se mobiliser pour dégager des pistes de solutions?
Je pense que personnellement, l'ultime solution, c'est de briser les barrières du silence, ma chère Zahira. C'est vraiment de briser les barrières du silence. Et je suis content que vous m'offriez cette tribune pour en parler parce que ça participe de ce jeu-là, de briser le silence. Parce que plus on en parle, plus on en apprend. Parce que, voyez-vous, on est en fait limité. Limité parce qu'on ne peut répliquer que ce que nous avons appris, que ce soit de nos parents, que ce soit de nos enseignants, que ce soit de notre milieu dans lequel on vit. Donc, briser cette barrière du silence pour mettre sur la table le thème du racisme anti-noir dans les différentes tribunes, dans les écoles, dans les radios communautaires comme les vôtres, dans des plus grosses tribunes, de telle façon qu'on ne se sente plus gêné d'en parler. Parce que, vous savez, plus on essaye d'étouffer la bête, plus elle grandit et elle devient nuisible pour la société. Donc, je pense personnellement que la première des choses qu'il faille faire, c'est de rompre avec le silence et donner la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer, de parler de leur vécu, de leur réalité. Parce qu'en fait, il n'y a pas meilleure ressource que d'apprendre des uns des autres. Plus il y a des opportunités de dialogue et de conversation, mieux on apprend. Donc ça, c'est d'un. Et puis de deux, je pense qu'il faut qu'au niveau politique, qu'il y ait une réaction très forte et qu'on puisse tout simplement rompre avec cette attitude de ce qu'on appelle en anglais le lip service, c'est-à-dire faire une politique de façade, dire oui, nous sommes désormais engagés à lutter contre le racisme, engagés à lutter contre toutes les formes de discrimination, mais que ce soit simplement le fait d'une campagne politique. Je voudrais qu'on sorte de ce carcan-là, qu'on sorte de ce sentier battu pour proposer des solutions concrètes. Et les solutions concrètes passent bien sûr par la consultation des différentes communautés qui, au quotidien, traversent tous les défis inhérents, bien sûr, à la problématique du racisme anti-noir. Donc, oui, briser le silence. Oui, absolument, engager le chemin du travail politique, mais aussi faire des consultations. Mais le plus important, ma chère Zahira, et je pense que je l'ai mentionné dans ma communication, il faudrait tout simplement que, en fin de compte, qu'on puisse centrer, on mette l'homme au centre de toute discussion. Parce qu'à la fin, je l'ai dit, et quand j'ai parlé de mon état de noir, oui, je suis noir, je suis fier de l'être, je me célèbre en tant que noir, mais à la fin, je suis humain. Vous savez, j'aime toujours à chaque fois citer l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Où est passé le sens de la fraternité depuis un bon bout, ma chère Zahira? De génération en génération. Il faut qu'on essaie tout simplement de repenser la façon avec laquelle on approche l'être humain, tout simplement, pas une minorité. Parce qu'en réalité, on parle beaucoup de privilèges aujourd'hui. Mais je pense tout simplement que si on recentre l'humain, on remet l'être humain au centre de toute discussion, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire. On va éliminer certains tabous parce que c'est important pour un processus de réconciliation, c'est important pour un processus de guérison, tout simplement.
Certaines études ont démontré que les minorités visibles sont non seulement moins présentes dans les médias d'information, mais également dans des médias de divertissement. Comment s'y prendre pour y arriver?
Quelle est, quand vous regardez la composition de la société canadienne dans son ensemble, quelle est la dynamique qui vous anime? Est-ce que vous ne voyez pas que le multiculturalisme vous parle d'une certaine façon? Alors, je reviens tout simplement pour dire que, absolument, que ce soit dans les médias, que ce soit dans toute forme, dans les médias informatifs, de divertissement, oui, absolument, il devrait avoir cette notion de représentativité des différentes sphères de notre population. Parce que, voyez-vous, c'est tellement difficile pour moi, je ne pourrais pas, moi en tant que noir, m'arroger tout simplement le prestige d'être capable de parler du vécu des Indiens alors que je n'en suis pas un. Il n'y a pas meilleure personne pour me parler de la réalité des autochtones au Canada que les autochtones eux-mêmes. Donc c'est important au sein du gouvernement, au sein de toutes les plateformes, même dans les médias, de toujours penser à est-ce que toutes les couches de la société sont représentées. On parle beaucoup d'équité dans notre société, ma chère Zahira, mais vous savez, ça reste encore un fait politique. Dans la réalité, elle ne se traduit pas concrètement. Parce que si on devrait à chaque fois avoir le souci et se poser la question, quelle est la population que nous servons? Pour qui est-ce que nous travaillons en réalité? Je prends l'exemple de votre média. Vous êtes écouté par tous les francophones de l'Ontario. Vous faites un merveilleux travail. Ça, je profite de l'occasion pour vous féliciter d'ailleurs.
Merci.
Et je pense que ça ne fait de sens. Votre travail ne fait de sens à la fin que si chacun a la possibilité d'utiliser votre média comme moyen d'expression. Alors, si vous, dans votre logique managériale, vous intégrez uniquement que l'histoire d'être dite tout simplement d'un seul pan, alors vous faussez le débat. Parce que c'est important d'avoir les perspectives différentes. C'est comme ça qu'on construit une société équitable. C'est comme ça qu'on construit une société juste. Donc, je pense que tout simplement, mon message, au-delà du fait que je m'adressais aux éducateurs, c'est aussi un message que j'adressais à pratiquement tout le monde dans la société. Avoir toujours ce petit questionnement. L'acte que je suis en train de poser, la parole que je suis en train d'avancer, quel impact est-ce qu'elle aura, pas seulement sur celui qui m'écoute immédiatement, mais sur tous ceux qui auront l'opportunité de tomber sur mon message. La décision managériale que je prends, est-ce qu'elle tient compte des populations que nous desservons? Ça, c'est autant de questions qu'on doit se poser à tout moment. Donc, ce n'est pas simplement dans le cadre des médias, mais c'est bien sûr dans le cadre de toutes les autres sphères de la société, dans tous les autres corps de métier, dans toutes les autres corporations.
Pensez-vous que les quotas et la discrimination positive pourraient faire évoluer la donne dans le bon sens?
Vous savez, la discrimination positive peut être abordée sous plusieurs sens. Je pense tout simplement que quand on parle de compétences, il faut qu'on soit tout simplement clair sur ce qu'on entend par notion de compétences. Okay? Parce que la compétence peut être culturelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être de plusieurs ordres. Donc, c'est important pour nous, à chaque fois, lorsqu'on parle de recrutement et de discrimination positive, de se référer à un cadre de travail spécifique. Donc, immédiatement, je ne pourrais pas vous donner une réponse à cette question telle que vous l'espérez, mais j'ai tout simplement dit, il faudrait à chaque fois, ma chère Zahira, qu'il y ait un cadre de travail qui soit approuvé par tout le monde, qu'on soit d'accord et que ce soit clair pour tous, de telle façon que la décision qui va être prise à la fin, qu'elle ne soit pas mal interprétée, qu'elle ne soit pas tout simplement perçue comme une faveur qu'on ferait à une ou deux personnes. Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où demain, ma chère Zahira, vous faites de moi peut-être le président du conseil d'administration de telle entité par simple mesure de représentativité. Non, je voudrais que ce soit un processus clair auquel tout le monde effectivement adhère. C'est très important de se souvenir. Et je l'ai dit dans mon message, je n'aspire pas à la pitié. Parce que quand vous parlez effectivement de discrimination positive, j'ai l'impression effectivement que l'interprétation que beaucoup de gens donnent à cette discrimination positive, c'est que bon, pour résoudre le problème de représentativité, il faut larguer les uns et les autres un peu partout. Non, il faut tenir compte de ce qu'ils peuvent apporter comme contribution. Parce que moi, personnellement, je voudrais être satisfait de mon travail parce que je sais que j'ai les compétences pour pouvoir être où je suis. Et pas simplement imaginer que je suis là du fait de la pitié des uns ou des autres. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Pour finir, est-ce que vous auriez un mot de la fin ou un message pour les auditeurs et auditrices de Choc FM?
Le message, c'est ultimement de demander aux uns et aux autres de se poser la question, de savoir quelle société est-ce que nous sommes en train de bâtir en ce moment donné. Mais aussi, c'est de se poser la question de savoir quelle société nous voulons léguer aux générations futures. Ne nous trompons pas, ma chère Zahira. la dynamique que nous observons en ce moment donné ne peut qu'être consolidée. Des changements vont arriver, ils sont en train d'être opérés dans la société canadienne. Et malheureusement, on ne peut pas arrêter le changement. Il faut composer avec le changement. Il faut être capable, bien sûr, de tirer une plus-value du changement, parce que je pense qu'on gagne toujours à apprendre un peu plus de ce qui est différent, de ce qu'on a toujours connu. Alors, mon message, c'est ultimement de demander aux uns et aux autres d'abord d'apprendre à se connaître et de prendre l'engagement de connaître un peu plus au sujet des autres et ne pas simplement se jeter dans des dénonciations, dans des calomnies, dans des rejets, dans des discriminations, tout simplement parce que les autres sont différents et qu'ils constituent, en fait, en anglais on dit « threat », qu'ils constituent une menace à notre bien-être ou alors à notre petit cadre de vie. Non, ce n'est pas le cas. On parle beaucoup de nos jours de village planétaire. Le monde est un village planétaire, dit-on. C'est depuis 2000 qu'on nous le dit, d'ailleurs. Mais la réalité est différente. On n'a pas ce sentiment-là que c'est vraiment un village planétaire où chacun peut décider de son bon vouloir d'aller s'installer où il veut être bien accueilli. Il y a, bien sûr, ce frein qui empêche aux uns aux autres d'ouvrir leur cœur et d'embrasser les autres tels qu'ils sont et d'apprendre d'eux et de partager avec eux. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse briser cette barrière et qu'on puisse donner la chance aux êtres humains. Je ne veux pas dire aux Noirs, aux Blancs, aux Indiens, aux Asiatiques, qu'on donne tout simplement la chance à l'être humain de s'exprimer dans son cadre de vie et d'apporter sa contribution à la construction d'une dynamique nouvelle pour notre communauté au Canada et dans le monde. Parce que voyez-vous, le Canada est très admiré, il est très célébré dans le monde. Mais il faut vivre au Canada pour comprendre que la réalité est autre aussi. Alors aujourd'hui, en fait, mon message, c'est juste un appel à l'action, comme je l'ai dit avec mes collègues. C'est qu'on puisse tout simplement embrasser cette opportunité, qui n'est pas une opportunité agréable d'ailleurs, mais embrasser cette opportunité pour davantage travailler à défendre et promouvoir les valeurs de dignité, d'appartenance, de respect, d'équité, de diversité et d'inclusion autour de nous. Ça commence par notre cadre familial. Ça commence par notre cadre de vie dans nos quartiers, dans nos communautés, dans notre province, dans notre pays. Et je pense que progressivement, on va arriver à un point où, ensemble, on se regarde dans les yeux et se dit, on a fait un bon travail. Je le dis parce qu'il faut tenir compte de nos enfants qui naissent ici, ceux qui vont naître demain. Quelle est la société que nous voulons leur léguer? Ça, c'est la question que je veux poser in fine à vos auditeurs. Et j'espère tout simplement que chacun dans son petit coin va essayer de méditer sur ces petits mots et se donner tout simplement pour devoir de penser l'homme et de penser la société de façon différente à la lumière de ce qui est en train de se passer en ce moment donné.
Absolument. C'est d'ailleurs un message d'optimisme, un message empreint de positivité, d'optimisme que vous avez livré en clôture de votre discours. Je cite le passage, c'est un voyage d'apprentissage pour vous, pour moi et ensemble, nous devons continuer à travailler pour un avenir meilleur pour nous tous et pour les générations à venir. Vous dites également que nous ne devons jamais abandonner et nous devons tous faire mieux. Et vous terminez en disant merci, je vous aime tous. Vous avez un commentaire là-dessus?
Je pense que ce sont des propos qui viennent du fond de mon cœur et je les ai pensés mûrement et je les réitère encore, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde, je vous aime et j'espère tout simplement qu'on ne va pas abandonner ce combat parce que ce n'est pas un combat de minorité, ce n'est pas un combat des Noirs versus les Blancs, ce n'est pas un combat des Noirs versus les Blancs, ce n'est pas un combat des Indiens. Non, c'est un combat de l'humanité où vous et moi, ensemble, on doit œuvrer pour qu'on ait un monde meilleur. Et il est possible d'ailleurs, il est possible. Mais on ne peut pas abandonner, ma chère Zahira, on ne peut pas abandonner. Et merci pour le travail que vous faites aussi.
Merci pour cette intervention, Eric. Pour notre part, on enchaîne avec la suite de la programmation sur le 105.1.